Bon matin. Avant la prédication, je dois vous remercier, tous et chacun. Je dois remercier ceux qui sont venus aux obsèques de ma belle-mère, hier et avant-hier. Je dois remercier ceux qui ont voulu venir, mais qui n'ont pas pu venir pour des circonstances indépendantes de leur volonté. Je dois remercier ceux qui ont prié pour nous, afin que ça se passe bien. Mais je dois surtout vous remercier parce que l'action que vous avez faite, le fait que vous soyez venus en si grand nombre, et le fait que vous ayez prié en si grand nombre, a permis que des trous se fassent dans l'armure de l'indifférence face à l'Évangile dans ma belle famille. Mon beau-père a été impressionné. Et il a même été touché par une sœur en particulier qui l'a approché, qui lui a parlé. Puis il nous dit après, il dit, elle a des bons mots, elle, hein? Mon beau-frère, à qui j'ai annoncé l'Évangile il y a 30 ans et qui s'est fermé complètement par après, a été impressionné. Ah, comment ça se fait que tant de monde qui viennent te voir, qui viennent voir, ils ne savent même pas que Gisèle Pronovo existe, puis ils viennent te voir. Bien, je vous remercie. Bien, l'Évangile et ma ville. Voilà. La ville de Trois-Rivières, ça peut être n'importe quelle ville. Mais c'est notre ville, Trois-Rivières. Malgré que je reste à Shawinigan, Trois-Rivières est souvent ma ville. Bien, qu'est-ce qu'on a à dire? Premièrement, on sait qu'on se transforme constamment. On est en continuelle transformation. On est en transformation physique, en transformation... Par là, Daniel, comme ça, c'est bien. Ah, c'est tout bloqué. C'est bien. On est en transformation physique, en transformation dans notre cœur. Notre intelligence se transforme. D'ailleurs, si notre intelligence se transforme, c'est pour être mieux. On ne parlera pas la même chose de notre transformation physique. Là. Transformation physique, ça ne va pas de mieux en mieux. Ouais. C'est comme le grand-père qui dit à son petit-fils, il dit, tu sais, Dieu, c'est Dieu qui m'a fait. Alors, le petit-fils le regarde, il dit, ah oui, ah oui. Puis il dit, tu sais, c'est Dieu qui t'a fait aussi. Le petit-fils le regarde, il dit, ah oui, mais il dit, c'est pas mal amélioré, par exemple. On se transforme constamment. Et on se transforme en rapport, je m'excuse, je vois tendance à aller là, Daniel. Là. On se transforme constamment par la lecture de la parole de Dieu. Notre intelligence est renouvelée à force que l'on lit. Si on arrête de lire, on ralentit le processus. Mais si on lit, on se transforme. On change nos manières de faire. C'est-à-dire que si, il y a quelques années, on faisait l'évangélisation d'une certaine manière, aujourd'hui, ça ne sera plus la même chose. Aujourd'hui, ça va être d'autres choses. Ça va être fait différemment. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'amour. L'amour que Dieu a eu pour son peuple. L'amour que Dieu a eu pour ses enfants. L'amour que Dieu a pour ceux qui le cherchent. Et même l'amour que Dieu a pour ceux qui ne le cherchent pas. La parole de Dieu est claire. Il fait tomber la pluie sur les méchants comme sur les bons. L'amour de Dieu, c'est ce qui englobe la parole de Dieu. C'est une constante. Mais sur cet amour-là, il en ressort des choses. Il ressort, premièrement, que nous avons à dire des paroles. Et même à prendre une position d'amour face aux gens qui sont en face de nous. Lorsqu'on est dans le monde, parfois, on est face à des personnes qui prennent des positions d'adversité, de haine, de problématique. Notre position comme chrétien, c'est de prendre une position d'amour. L'Évangile est beaucoup plus qu'un message. C'est une manière de vivre. C'est une manière de faire. C'est montrer, c'est manifester ce que Dieu a fait en nous. Un peu comme le démoniaque dans Luc 8, où ce que le Seigneur l'avait pris, c'était un homme qui ne pouvait garder de vêtements sur lui, qui était déchaîné. Personne ne pouvait l'attacher même. Il avait tout essayé. Mais lorsque le Seigneur s'est approché de lui et qu'il l'a guéri, qu'il l'a enlevé ses démons, il était assis dans son bon sens, assis, vêtu, dans son bon sens. Et lorsque le Seigneur est arrivé et il lui a demandé, lorsque lui est arrivé, il a dit, « Seigneur, permets que j'aille avec toi, que je te suive. » Le Seigneur a répondu, « Retourne dans ta maison et... » Explique aux gens qui sont autour de toi, de ta famille et de ceux qui sont autour de toi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Et il publia dans la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Cet homme-là avait à dire, voilà, Jésus a changé mon corps, mais Jésus est en train de changer mon cœur. Et il change constamment mon cœur à tous les jours. Et c'est ça que je veux vous montrer. Vous savez, l'amour, ce n'est pas ce que l'on fait. L'amour, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs. Ce que l'on fait, ce n'est que l'expression de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes capables d'avoir cet amour-là pour ceux qui nous entourent si nous avons Christ dans nos cœurs. Il ne suffit que ça. J'aimerais vous montrer, par la parole de Dieu, une manière de faire que Dieu a utilisée pour son peuple. Et j'aimerais qu'on regarde dans Jérémie, au chapitre 29, pour vous mettre en situation, le peuple est déporté en Babylone. Et Jérémie, le prophète, adresse la parole au peuple. Et voici qu'est-ce qu'il lui dit. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens. Jérémie 29, 1, excusez pour ceux qui ont tourné. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Éléazar, fils de Shaphan et de Gemaria, je l'ai lu 12 fois, mais je ne suis pas encore capable de les dire, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabucodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un espoir, un avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce peuple qui était pour être déporté à Babylone, et c'était la coutume du temps, lorsqu'un pays envahissait un autre, il prenait la peuplade, il l'emmenait dans leur contrée, et là, il cherchait à les assimiler. C'était la manière rapide de faire grandir un pays. Ça allait bien. Il pouvait tout de suite avoir des gens aptes à travailler, aptes à apporter quelque chose de bien dans le pays, et pouvait même les assimiler. Et une génération ou deux, et ça devenait des Babyloniens. Ils étaient capables d'être assimilés, et c'est ce que les Babyloniens cherchaient. C'était le but. Mais il y avait aussi une pression sur ce peuple-là. Il y avait des faux prophètes. Et Anania, dans le chapitre 28, verset 10, disait, « Votre captivité, elle ne sera pas bien, bien longue, vous allez voir, 2 ans, 3 ans. Ne vous investissez pas dans ce pays-là. Restez à l'écart. Tenez bon. 2 ans, 3 ans, vous allez retourner dans votre pays, ça va être réglé. » Et il y avait Jérémie qui disait, « Non, non, non. Entrez dans la ville, soyez distincts, mais veillez à ce que la ville prospère. Soyez une bénédiction pour cette ville-là. Veillez au bien de ceux qui vous entourent. Soyez prospères et emmenez la postérité à cette ville. Soyez utiles, ceux qui viennent autour de vous, et priez même l'Éternel pour que ça aille bien pour eux. » Les Babyloniens recherchaient l'assimilation. Les faux prophètes, l'isolement. Mais ce que Dieu recherchait à travers son peuple, c'est qu'il soit une source de bénédiction. C'était le désir de Dieu. Dieu a une préoccupation particulière pour les villes. Dieu aime les villes. Et tantôt, il va les juger, Sodome et Gomorre. Tantôt, il va les protéger, Ninive, Babylone. Dans toute sa parole, il montre un intérêt pour les villes, pour ses habitants. Les villes ne sont pas une invention de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a inventé les villes. C'est Dieu qui a voulu que les villes se créent. C'est Dieu qui a voulu que l'on se rassemble et qu'on puisse être une gloire pour lui. Dieu a créé les villes pour qu'elles soient une place de refuge et de sécurité. Dieu a créé les villes aussi que ce soit une place de justice. Dieu a créé les villes pour que ce soit une place où se développent les cultures. Plusieurs races, plusieurs personnes ensemble, qu'on apprenne les uns des autres, qu'on apprenne la culture africaine, et on en a beaucoup à apprendre, mais que la culture africaine apprenne aussi la culture québécoise, et il y en a beaucoup à apprendre. Qu'elle apprenne aussi, qu'elle apprenne aussi une place où l'on cherche et trouve la spiritualité. La spiritualité se trouve partout, se trouve même dans le fin fond des bois. Mais en ville, c'est particulier, c'est un ensemble de personnes. Et c'est ce que Dieu voulait, c'est ce que Dieu veut. L'organisation des villes fait ressortir cela. L'organisation des villes fait en sorte que l'on peut faire. Il y a plein de choses qui se font. Je parlais à mon frère René Désiel de Shawinigan. Puis, René, c'est un homme avec il y a 10 000 projets. Et s'il y avait juste 10 % de ces projets qui arriveraient à terme, je pense que tout le Québec serait évangélisé. Mais René, il me disait, il était à la ville. Puis il disait, y a-t-il une place, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire, tout ça. La ville a dit, il n'y a aucun problème, on a une place que vous pourriez faire vos spectacles, vous pourriez faire vos présentations. Oui, mais ça va nous coûter combien? Il dit, c'est gratuit, ça rentre dans le budget de la ville. Ah ouais, mais il dit, il faut trouver des chaises. Il dit, on a tout ça, on a tout l'équipement pour le faire. Il s'agit juste d'aller voir. Les villes sont faites pour les gens qui y vivent. Vous vivez dans cette ville-là. Quel service que vous avez? Quel service que vous pouvez avoir? Les villes sont basées pour ça. Mais voilà, le péché a fait d'autres choses. Le péché a brisé. Les villes sont devenues une place où il y a du racisme, des castes, de la violence. Présentement, je lis sur la presse plus qu'est-ce qui se passe avec les jeunes filles dans les villes. C'est terrible, c'est affreux. J'en ai des frissons. Je veux m'informer pour savoir quoi dire, quoi faire, parce que je n'ai des petites filles qui approchent cet âge-là. Là. Puis je sais qu'ils vivent dans les villes. Je veux savoir. Mais c'est ça, les villes, maintenant. Les villes, c'est aussi une place où on peut échapper aux lois de Dieu. Dans l'ensemble, on pense aux gangs de rue, on pense à la mafia, on pense à toutes sortes de choses qui sont très actives dans les villes. Les villes, c'est aussi une place où règne l'orgueil, l'arrogance, les excès, le travail, la fatigue. C'est une place où il y a des fausses croyances et des sectes. Dieu, il y a 600 ans avant Jésus-Christ, est le même qu'aujourd'hui. Et il ne faut pas croire que les villes sont si différentes que ça d'aujourd'hui. Ce qui régnait dans ce temps-là, ça règne encore aujourd'hui. Nous sommes confrontés au même problème que le peuple d'Israël. Dieu nous demande, premièrement, de servir et d'aimer ceux qui ont besoin d'aide et de protection. C'est un de nos travaux à faire. Dieu nous demande aussi d'apporter l'amour de Dieu, la paix et la justice dans ce monde brisé. Dieu nous demande aussi de créer et de cultiver la culture dans nos relations, de pouvoir s'approcher. Quand j'entends Stéphane qui dit qu'il y a des musulmanes qui viennent en bas trier du linge, qu'il y a du linge que les gens de l'extérieur viennent pour voir. C'est exactement ça. Nous favorisons la culture dans nos relations. Dieu nous demande aussi de donner l'occasion de dire que Christ satisfait pleinement le cœur humain. Dieu nous donne l'occasion de pouvoir le dire aux gens. Mais on est confronté au même problème que le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël qui allait vivre en Babylone. On a le risque d'être assimilé. Si le monde vient nous envahir, hey, on va être assimilé, on va être comme eux. Mais non, on a l'esprit, on a la parole, on a l'amour de Dieu dans nos vies. Dieu peut nous tenir. Nous allons toujours être une assemblée chrétienne qui annonce le salut de Christ non pas par les œuvres, mais par le sacrifice sur la croix. Et nous serons toujours cela. Lorsque nous allons cesser d'être cela, nous ne serons plus une assemblée chrétienne. Comment est-ce que nous pouvons être assimilés? On n'a pas à avoir peur d'être assimilés tant que nous tenons notre esprit ferme sur nos convictions. Tant que nous avons l'esprit, la parole et l'amour de Dieu. On a un risque aussi, on a le risque de s'isoler. Ah, le Seigneur revient bientôt. On n'a pas besoin d'aller dans le monde. Le Seigneur revient bientôt. On a juste à s'assir et à attendre. Mais pourtant, si on veut être un impact pour Dieu, si on veut avoir un impact pour Dieu, il va bien falloir qu'on influence ceux qui ne connaissent pas Dieu. On n'a pas le droit de s'isoler. C'est interdit. J'irais même jusqu'à dire que c'est péché. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Il y a quelques semaines, dans le repas du Seigneur, le thème, c'était les bénédictions de Dieu. Vous vous rappelez? J'ai voulu me lever, mais le temps a manqué. Trop de participants. Ou pas assez de temps. Mais j'aurais voulu me lever et dire, Dieu nous donne des bénédictions. Mais nous sommes une bénédiction de Dieu. Nous sommes une bénédiction de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. Pourquoi? Pour bénir d'autres personnes. Pour bénir ceux qui ne connaissent pas les bénédictions de Dieu. Voici notre rôle. Voici ce pourquoi nous avons été sauvés. Pour glorifier Dieu, oui, premièrement, pour glorifier Dieu. Nous sommes des adorateurs. Mais nous sommes aussi une source de bénédiction pour ceux qui sont en dehors. Et ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle l'amour en action. L'amour qui fait quelque chose. Imaginez maintenant que Dieu aurait apparu au ciel dans une grande masse, comme il peut le faire, puis aurait dit sur la terre, « Je vous aime !» Puis il dirait à tous les ans, il viendrait, il dirait, « Je vous aime, je vous aime. » Là, à un moment donné, il dirait, « Ouais, puis... » Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous prouver son amour? Il a passé à l'action. Il a agi. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et nous en retirerons des dividendes. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Imaginez maintenant quand vous faites une bonne action envers les gens de l'extérieur. Vous vous asseyez dans votre char après, vous en allez, vous dites, « Ah, j'ai fait la bonne chose. » Ça n'a plus le même effet si vous dites, « Je t'aime. » Vous vous asseyez dans votre char, vous dites, « J'aurais pu faire d'autres choses, me semble. » Dieu est concerné par les villes et par ses habitants. C'est ce qu'il a dit à Jonas. Lorsque Jonas était tout en peine parce que le ricin avait séché en arrière de lui, il avait dit, « Moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent 120 hommes qui ne savent distinguer ni leur droite ni leur gauche. » Et selon les commentaires, Dieu fait mention des enfants. Les enfants qui ne savent pas encore distinguer leur droite et leur gauche. Il y a 120 000 enfants. Imaginez les hommes et les femmes dans cette ville-là. Et Dieu est préoccupé par cette ville-là. Dieu dit à quelque part, il y a quelque chose à faire pour cette ville-là. Je vais envoyer mon serviteur. Je vais envoyer Jonas. Dieu aurait pu le faire lui-même. Il a décidé d'envoyer Jonas. Je suis convaincu que si Dieu viendrait avec un immense tonnerre pour que tout le monde aille peur, les églises se grossiraient, on n'aurait pas cette place, il fallait doubler la salle, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde ici participe. Dieu veut que l'on les aime en action. Il veut nous utiliser. Il veut que l'on tisse des liens d'amour avec les gens de la ville. Pour cela, on devra avoir une place dans nos cœurs pour leurs besoins. Quels sont les besoins des gens autour de moi? Je connais les besoins des gens ici. Puis je veux les satisfaire. Mais je veux aussi garder une place dans mon cœur pour les gens de la ville, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour les gens qui ont besoin. Nous sommes une bénédiction. Nous pouvons annoncer le véritable amour à ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous savez, Dieu, Christ est venu sur la terre, et il nous a établis, et il a dit à quelque part, il a fondé l'Église, c'est lui le fondateur, c'est lui qui est la pierre angulaire, c'est lui qui est la base. Et c'est reconnu. Napoléon Bonaparte a fait une remarque un jour. Il a dit, « Alexandre, César, Charlemagne et moi avons construit de grands empires. Mais de quoi ont-ils dépendu? De quoi dépendaient ces grands empires-là? De la force, par les guerres. Il y a des siècles, Jésus inaugura un empire basé sur l'amour. Et de nos jours encore, des millions d'hommes voudraient mourir pour lui. » La force de l'amour. J'ai fini de lire un livre de Martin Luther King, qui est « La force d'aimer ». Et cet homme-là a aimé, pourtant, et qu'il était haï par la couleur de sa peau. Vise les États-Unis dans les années 60, 70, puis t'étais noir, c'était vraiment pas une sinécure. C'était vraiment pas drôle. Il a trouvé le tour d'aimer. Il a dit, et cette phrase-là m'a touché énormément, « Vous pouvez nous humilier. Vous pouvez nous martyriser. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec nous, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de vous aimer. » Wow! L'amour en action. Le dernier exemple que j'aimerais vous donner, et en réalité, ce n'est pas le dernier exemple. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début, que tout le monde ensemble vous est venu visiter, c'est ce genre d'exemple-là. Ça en est un exemple. Vous êtes venu vers des gens qui ne connaissaient pas Christ. Vous avez fait étalage de votre grand amour que vous avez pour Hélène et pour moi. Et voilà l'effet que ça a eu. Donc, ce n'est qu'une continuité que vous devez faire et de chercher. Mais un autre exemple que je vais vous donner. Dans le passage de Philippiens, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments de Christ étaient la compassion pour les gens qui étaient autour de lui. Il a dit, à quelque part, il était ému de compassion, car ce peuple n'avait pas de berger. Il a prié pour eux. Il les a nourris. À coup de 1000 personnes, 5000, un autre coup, 4000 personnes. Il les a guéris. Il les a délivrés de Satan. Il a fait énormément de choses pour ces gens-là. Il est venu à leur secours en répondant à leurs besoins. Parce qu'il était, il a pris le temps de les écouter. Parce qu'il était gentil. Parce qu'il était aimable. Christ connaissait leur cœur. Puis, probablement, qu'une certaine quantité de personnes étaient devant Ponce Pilate à leur dire « Crucifie-le! Je boite plus à cause de lui, mais crucifie-le! Je vois aujourd'hui, mais crucifie-le! » Pourtant, Christ ne s'est pas arrêté à ça. Il a regardé leurs besoins et il a répondu à ces besoins-là. Il a manifesté le véritable amour.
que l'on doit avoir. Dans la ville, dans une ville comme aujourd'hui, elle peut s'appeler Trois-Rivières, elle peut s'appeler San Francisco, elle peut s'appeler Shawinigan, elle peut s'appeler le nom que vous allez y mettre. Dans les villes, on trouve des gens qui sont sans espoir spirituellement. On trouve des gens qui sont sans religion ou des gens qui ont une autre religion. Des gens qui ont un style de vie profondément non chrétien, qui sont complètement à l'opposé, qu'on pourrait qualifier de méchants. On rencontre des gens aussi qui sont très gentils. Et lorsque je mentionne des gens très gentils, j'ai des images dans ma tête. J'ai un oncle et une tante qui sont des exemples. À chaque fois que je les regarde, je me dis, comment ça se fait donc? Ils ne sont pas chrétiens. Eux. C'est des exemples, c'est des très bonnes personnes qui ont des très bonnes valeurs. On voit des gens qui sont sages et des gens qui sont insensés. On côtoie des gens plus dévoués qu'on pourrait l'être même nous-mêmes. On trouve des gens riches, des gens pauvres, mais on trouve surtout des gens brisés par le péché, qui ont besoin de l'Évangile, de la grâce. Et c'est les seules personnes qui peuvent leur amener cet Évangile de la grâce, c'est nous. Dieu a prouvé son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, la question de conclusion, comment est-ce que je vais prouver au monde que Christ est dans mon cœur? Comment je vais faire ça? À leur dire, oui, et j'ai rien contre le fait d'annoncer l'Évangile comme d'un exemple, ceux qui vont à Ikias, là, les fermiers chrétiens, c'est une très bonne manière, et il faut continuer à faire ça, il faut continuer à le faire. C'est une bonne méthode, mais il en existe un autre aussi. C'est d'avoir de l'amour pour les gens autour de nous. Comment je vais faire, moi? Comment vous allez faire, vous? Pour prouver au monde que Christ est dans mon cœur. On n'est pas comme le monde. Et c'est ce qui devrait nous différencier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci Seigneur pour ce que tu as mis dans nos cœurs. C'est inestimable. Il n'y a pas d'argent au monde qui peut nous enlever ça. Puis il n'y a pas d'argent au monde qui peut nous faire gagner cela. Ton amour est un don gratuit, mais un don d'une immense valeur. Mais comme tous les dons, Seigneur, il a besoin d'être profitable, d'être mis à profit. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous donner l'intelligence nécessaire pour pouvoir l'étendre, cet amour, dans notre ville, dans notre famille, dans ceux qui sont autour de nous qui ont besoin. Donne-nous, Seigneur, comment faire. Donne-nous les gestes, donne-nous les mots, donne-nous les attitudes que nous devons avoir. Parfois, c'est des attitudes qui vont être dérangeantes. Parfois, c'est des attitudes qui vont être dures à faire. On va sortir de notre zone de confort, peut-être. Mais si c'est le prix à payer, Seigneur, pour manifester ton amour, ça vaut vraiment la peine. Permets que l'on voit, Seigneur, à travers les yeux de notre cœur, que l'on fait ta volonté en fonction de l'amour que tu nous as donné. Que l'on soit, que ce soit présent dans nos esprits, non pas juste ce matin, mais à tous les matins que l'on se lève. Permets, Seigneur, que je puisse étendre l'amour que tu as mis dans mon cœur. Pour ta gloire, pour ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci, Denis.